Bienvenue sur la chaîne AAU, Ambiance, Architecture, Urbanité.
Donc nous procédons comme la dernière fois avec une phase de discussion entre les intervenants. Est-ce qu'il y a des questions, des résonances, des réactions par rapport à l'une ou l'un par rapport à l'autre? Donc le floor est ouvert pour vous si vous souhaitez réagir.
Je veux bien réagir par rapport à la présentation de Virginie. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Et je me suis posé beaucoup de questions parce que c'est des termes aussi que je retrouve dans mes enquêtes. C'est aussi des thématiques qui m'intéressent. Et cette idée de l'axe de l'individuel vers le collectif, c'est finalement un peu ce qui guide tous les récits que j'ai collectés jusque-là. Et c'est la question que je me pose à travers la manière dont, à partir de récits individuels, on arrive à faire une forme de totalisation, je ne sais pas comment dire, mais pour arriver au collectif. Et par exemple, est-ce que c'est par la redondance? Voilà, c'est par exemple pour mon cas, c'est plutôt dans la redondance. Plus les choses se répètent, plus on a de la redondance, plus on nous redit un peu les mêmes choses. C'est comme ça que j'arrive à plutôt affirmer, confirmer des choses et ne pas rester simplement dans les suppositions ou dans l'anecdotique pour arriver un peu à dépasser le jeu et arriver au nous et du coup monter en généralité. Donc c'est plutôt de croiser les corpus. Déjà ça, c'était un premier point. Ensuite, la deuxième chose, c'était la question de cette ambiance de ressourcement, mais qui me touche aussi à titre personnel, du coup, pas que par rapport aux travaux de recherche dans ma thèse. C'est cette idée aussi de proximité, de pratique et de codes sociaux. Tu parles d'accessibilité relationnelle et de cette idée d'évidence partagée. Et c'est effectivement aussi au-delà des communautés, on va dire, qui se retrouvent dans un espace qui n'est pas forcément le leur par nature ou parce qu'ils n'y sont pas nés. C'est aussi dans ces cités-là où c'est des personnes qui parfois y sont nées, c'est juste leurs parents qui sont arrivés, ce ne sont pas des populations immigrées de très très loin, souvent c'est des personnes qui vivaient en Haute-Savoie, qui vivaient autour, ensuite qui se sont retrouvées dans la ville de Grenoble, en plein centre-ville, parce qu'il y avait les industries, le chemin de fer, tout ça. C'est des personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, reviennent dans ces cités-là, même quand elles subissent des transformations, pour se ressourcer d'une manière ou d'une autre, pour revoir ceux qui y sont encore, ceux qui n'y sont plus aussi, mais de savoir qu'ils étaient là à un moment, d'avoir un peu des repères spatiaux, de se dire, eh ben là, c'est le banc où j'étais, où je m'asseyais tout le temps avec mes amis d'enfance. Ici, c'est l'endroit où on se retrouvait le vendredi soir entre amoureux quand on était plus jeune, dans les années 40, 50. Ici, c'est l'endroit où, pendant la guerre, on se cachait quand les Allemands passaient, on courait vite et on allait se réfugier dans les montées de la cité. Toutes ces choses-là, c'est des choses que je trouve hyper intéressantes et voilà, ça me questionne sur cette idée de proximité, donc de présence humaine, le besoin en fait de rester proche à ces lieux d'attachement, mais aussi aux figures d'attachement qui peuvent être des personnes, qui peuvent être aussi, si on extrapole, qui ne sont pas qu'aussi des personnes, qui peuvent être plus de l'ordre du sensible et de la sensorialité. Et je voulais aussi te faire une remarque, mais qui est du coup du point de vue personnel. Quand tu parlais de cette ambiance de ressourcement où tu disais qu'on avait l'impression du coup pour ces personnes de repartir au pays, effectivement il y a une expression qui, je pense, pour ceux qui sont aussi binationaux pourrait peut-être confirmer parmi les doctorants, on dit nous, chez nous, donc moi je suis algérienne aussi, qu'en fait ici en France il y a de tout maintenant, on ne trouve pas juste papa et maman dans les marchés. Voilà, il n'y a que papa et maman qu'on ne trouve pas, ou grand-père et grand-mère, voilà. Mais sinon, qu'il y a tout. Et donc, c'est dans cette idée-là, en fait, de se dire que quand on va à Barbès, effectivement, ça dépasse le territoire national. Tout le monde connaît Barbès, même si on n'a jamais mis le pied en France. Et ben, quand on va à Barbès ou à Zem à Lille, on sait très, très bien que c'est comme si on repartait au pays. Il y a aussi Marseille, qui a aussi cet effet-là, finalement, dans l'imaginaire, de se dire, bah, Marseille, c'est Alger, mais de l'autre côté de la mer. Voilà, c'est des choses, en fait, qui ont beaucoup de sens pour moi personnellement, mais que je retrouve dans ces cités-là où je ne suis pas confrontée à des communautés étrangères, immigrées, qui sont vraiment des personnes qui sont nées des fois même à Grenoble, mais qui ont juste déménagé d'un quartier à un autre, mais pour eux, c'était déjà énorme comme distance de partir, par exemple, de Tesserre. Il y en a qui me disaient, j'ai déménagé de Tesserre, où je suis née, et je suis allée à Jean Massé. Pour moi, ça a tout changé. Et puis, j'ai vécu autre chose. Je n'aurais pas vécu la même chose à Tesserre et à Jean Massé, parce que même le cadre bâti ne s'y prêtait pas. Ce n'était pas les mêmes configurations spatiales, pas les mêmes formes spatiales. Et pour finir, la question des émotions et de l'émotion collective, je trouve que c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans tous les travaux en fait, que mènent les doctorants. On se questionne beaucoup sur la part des affects, des émotions, de l'attachement dans les ambiances, dans la manière dont l'ambiance opère. Et ce n'est pas toujours facile d'enquêter. En fait, sur un terrain, en se disant, je vais faire attention à ça, à l'ambiance, aux affects. Comment je fais pour capter ça? Et c'est vrai qu'il faut ruser des fois pour trouver les bons outils. Parfois, il faut combiner plusieurs outils différents pour avoir différentes approches. Et voilà, je voulais te remercier pour ta présentation très stimulante, en tout cas.
Peut-être juste un rebond. Ça fait beaucoup de choses, donc je pourrais pas rebondir sur tout. Merci beaucoup pour ce retour. Ouais, sur le juste peut-être par rapport aux rapproches que tu fais entre le quartier sur lequel tu travailles et puis ce quartier de la Coupe d'Or, et tu dis finalement tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui serait de l'ordre du ressourcement, enfin qui serait de même nature que ce que nous racontent les gens qu'on a rencontrés sur la Goutte d'Or, mais tous les exemples que tu donnes, c'est des exemples où les individus viennent retrouver dans un cadre spatial une mémoire individuelle. Ce qui n'est pas du tout le cas dans l'exemple de la Goutte d'Or. Donc il y a peut-être là quelque chose à réfléchir dans la distinction qui est vachement intéressante. Et à vous écouter, je me rends compte à quel point... alors je ne suis pas économiste, mais je pense très peu le cadre spatial en fait. Enfin, pour penser l'espace, si, mais penser l'espace vécu, l'espace approprié, l'espace... mais voilà, à vous entendre là, je me rends compte à quel point je réfléchis pas de la même manière, mais là il me semble que il y a vraiment quelque chose de peut-être d'une mémoire spatiale ou comment un cadre bâti peut nous aider à soutenir une espèce de permanence ou de maintien de soi dans le temps, etc. Et donc oui, il y aura quelque chose à discuter en rebond sur ça. Bon, il y avait plein de choses mais j'ai oublié. Ouais, sur la question de l'individuel au collectif. Donc moi je suis anthropologue, donc les anthropologues, c'est vrai qu'on passe un temps fou sur le terrain. C'est pour dire qu'on a des méthodes qui sont peut-être pas quand on dit en fait l'ethnographie, quand un anthropologue fait une enquête, c'est un temps. Bon, c'est voilà. Donc c'est pas en une semaine, ou c'est pas en 15 jours, c'est des mois et des mois, enfin c'est long. Et là, on était quatre en plus. Donc la question de la montée en généralité, elle s'est faite beaucoup dans la discussion, dans la collaboration, la comparaison entre ce que les uns et les autres voyaient. Et la montée en généralité, en anthropologie, je regarde ma marraine là, du coup, que j'ai dans l'œil. C'est très important on dit il faut double amarre à maintenir pour pas tomber dans la surinterprétation. La première amarre, c'est une amarre empirique, c'est-à-dire qu'il faut jamais que nos montées en généralité elles se fassent c'est par le terrain, c'est à partir de ce que on observe, à partir de ce qu'on les gens disent, à partir de ce qu'on peut observer que on théorise. Donc il faut pas qu'il y ait de rupture entre la théorisation et puis le terrain. Donc il y a amarre empirique d'un côté, puis amarre théorique de l'autre, qu'on essaye vraiment de tenir. Mais voilà. Et j'avais d'autres choses, mais je ne sais plus. Oui, si, peut-être en rebond par rapport La question de l'espace et puis de ce que tu proposais, Dinan, sur le Liban. Je trouve vraiment intéressant cette idée que tu as citée en disant que je ne sais plus qui, la construction physique ne suffit pas à remettre de l'ordre après le désastre. Et je trouve que cette idée, elle est importante. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Beyrouth, et c'est vrai que la reconstruction du centre-ville de Beyrouth est quelque chose de très très surprenant. La reconstruction des souks aussi, qui est quand même une forme qui ressemble à rien en fait. Là pour le coup, il y a un bâti, mais on a l'impression que c'est complètement vidé de l'ambiance. Enfin, voilà,
on appelle la ville fantôme.
On ne peut pas décréter une ambiance avec une forme. Ou alors, il y a dans la forme architecturale quelque chose des formes architecturales traditionnelles qui permettaient cette construction de l'ambiance, qui n'est plus, je ne sais pas. Mais, donc je trouvais que cette idée était vachement intéressante. Et j'avais rencontré à l'époque des citadins et des architectes qui essayaient justement de... Tu dois connaître, je retrouverai les noms. Et qui faisaient des livres normalement sur des très beaux livres de photos sur l'architecture libanaise traditionnelle. Essayer de faire des recensements dans les espaces publics des bancs notamment, essayer vraiment de faire un travail avec cette impression d'urgence que tout était en train de disparaître. Donc il y avait en même temps cet attachement très très fort à une forme d'architecture, avec ce sentiment qu'effectivement il était porteur d'une forme de vie qui disparaissait avec les grands chantiers de la reconstruction de Beyrouth.
Donc, oui, vous avez évoqué le mot urgence. Il semble que parfois le mot urgence a un effet négatif sur la reconstruction. Donc, comme si tout est détruit. Et moi, je voulais, avec ce propos, de révéler le temps qui est entre la destruction et la reconstruction. Donc même à Beyrouth, quand on a initié, moi je parle maintenant de la reconstruction du centre-ville, on a parlé pour un certain temps concernant ce projet, la reconstruction, mais il n'y avait pas des études, et puis soudainement, Emergency Project, et c'était Solidaire, l'entreprise, qui a pris le contrôle sur la reconstruction. Pour le camp Nahr el-Bared, c'est un camp qui a été détruit en quelques mois à Tabula Rasa. Donc, c'était pas le même cas, en fait, car il y avait un moment où on a travaillé sur une approche participative, de parler avec les gens, où, pour reconstruire, il n'y avait pas des cartes, en fait, pour les camps, comment l'emplacement des maisons. Donc, les cartes participatives avec les réfugiés, où on les rencontrait, c'est pour reconstruire, comment on l'appelle, les cartes mentales. Mais ce qui se passait au camp, par exemple, palestinien, il y avait cette reconstruction Emergency Project, dans le but que ce camp va être reconstruit dans juste 5 années. Mais en fait, jusqu'à maintenant, sa reconstruction est inachevée. Et ce temps qui était défini, maintenant il est indéfini, et on a toute une façon ou toute une manière d'habiter ces camps. Et les réfugiés palestiniens, par exemple, qui ont quitté ce camp parce qu'ils sont habitués à vivre hors du camp, dans d'autres camps, ils sont maintenant, même la relation familiale est différente, ils ne vivent plus ensemble. Il y a pas mal de réfugiés qui ne veulent pas retourner au camp et qu'ils ont commencé, on parle maintenant une dizaine d'années de reconstruction, ils ne veulent pas retourner, et ils voulaient et maintenant, parfois, ils louent leur appart au camp. Donc, ce qui se passait et ce que je trouvais très important en adoptant une approche ambientale, une approche que, comme architecte et urbaniste, pour nous, c'est difficile, c'est pas physique, mais c'est quelque chose de très important, car comme c'est Nicolas me disait, le mot « archive », on archive maintenant ce temps, entre la double explosion et le temps d'attendre la reconstruction, et qui sera peut-être un temps qui va durer pour plusieurs années. Donc, l'ambiance avec la façon de capter cette parole recueillie, de capter l'affectif, devient quelque chose de très important pour comprendre comment ces habitants vivent dans ces quartiers ou des habitants qui ne veulent plus vivre parfois à cause de catastrophes. Donc, il y avait des longs récits à propos, par exemple, l'exemple de Georges qui me disait, si on écoute, on essaie d'oublier le catastrophe, mais une fois j'étais dans mon magasin, et si on écoute un bruit quelque part, tout le monde va sentir que quelque chose va se passer. Donc, c'est juste pour... C'est, le temps passe, mais le traumatisme est toujours là. Donc, c'est avec l'ambiance qu'on a pu vraiment, recueillir ces paroles pour comprendre cette transformation.
J'aimerais réagir à cette question des mémoires individuelles dans le cadre spatial, dans l'espace bâti. Il n'y a pas que de la mémoire individuelle dans ces récits-là et dans ces quartiers-là. Certes, il y a cette mémoire individuelle et on le sent dans les récits parce qu'elle est un fragment de la mémoire collective, mais il y a quelque chose quand même de très communautaire dans ces cités-là. D'ailleurs, le mot, il est un peu fort et souvent, on a du mal à l'assumer dans le monde français, mais même d'un point de vue intérieur, quand on nous parle, on nous dit, nous, on était isolés, on était une cité à part, on avait notre maire à nous, nos adjoints à nous, on était la cité libre des abattoirs, et on était une communauté isolée pendant très très longtemps aujourd'hui, donc ils s'intègrent à la ville plus ou moins, ils n'ont pas trop le choix, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très... très communautaire dans cette cité-là, et il n'y a pas, voilà, c'est vraiment ce qui fait sens aussi dans cette cité-là. Il y a vraiment des pratiques et des usages qui lui sont propres, et c'est venu du fait que les personnes qui y vivent sont des personnes qui sont arrivées plus ou moins au même moment, au début, donc au moment où elle s'est construite, souvent ce n'était pas encore terminé, qui s'y sont installées, qui ont importé leur propre culture. Donc, c'est des personnes qui vivaient dans des villages, des choses comme ça, qui sont arrivées en ville et ensuite qui ont vécu dans un quartier qui tournait au rythme de l'usine qui était juste à côté, avec vraiment cette main paternaliste de l'usine Merlin-Gerin qui faisait vivre le quartier aussi, même les week-ends, pendant les vacances. Et c'est des personnes qui vivaient ensemble toute la semaine, qui travaillaient ensemble, qui passaient les week-ends ensemble, les enfants étaient ensemble dans l'école. Donc ça créait vraiment quelque chose de très... et c'était pour eux très difficile de démolir, pas parce que ça allait, parce que le bâti allait disparaître, mais de fait, il y allait avoir une démolition, certes par tranche, mais il y allait avoir des relogements, et forcément certains relogements à l'extérieur du quartier, et du coup ça venait détruire un peu et briser un peu ce cercle familial qui s'était fait, et beaucoup l'ont très 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 mal vécu. Certains sont revenus, d'autres ne sont pas revenus parce que 4-5 ans plus tard, on refait sa vie malgré tout ailleurs, mais encore aujourd'hui, ils reviennent, même lorsqu'ils sont partis et qu'ils ont fait le choix de ne plus revenir, pour retrouver un peu cette ambiance-là. Et même les nouveaux habitants, lorsqu'ils sont arrivés, comme il restait encore des anciens, et que, bon, aujourd'hui, ça a un peu changé, mais qu'il restait encore beaucoup d'anciens, et donc ils étaient assez majoritaires, ils se sentent plus ou moins imprégnés de cette ambiance-là, de leurs pratiques, mais aussi de leurs valeurs un peu morales. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vivaient de l'entraide. Voilà, ça résulte aussi de toute une époque, d'une société assez particulière, d'après-guerre aussi. Et ces personnes-là se sont un peu fondues dans le bain, on va dire, et elles ont plus ou moins fait partie de ce groupe-là. Après, ça a changé encore cinq années plus tard, et même, on va dire, les premiers nouveaux ont décidé de partir lorsqu'il y avait de moins en moins d'anciens, parce que, bien sûr, la vie fait que les anciens partent, décèdent ou... vont en EHPAD pour certains. Et donc, comme l'ambiance change, même les premiers nouveaux, ils les appellent comme ça, les premiers nouveaux ont décidé aussi de partir. Et donc, il y a encore eu, on va dire, une deuxième génération de nouveaux habitants. Et c'est là où aujourd'hui, l'ambiance de cette cité est un peu questionnée, parce qu'on a essayé de reproduire spatialement plus ou moins la même chose pour garder cette ambiance-là et cette vie sociale. Et on voit bien que, en fait, ça ne marche pas du tout, parce qu'il y avait quelque chose aussi de la présence de ces personnes-là qui ont porté pendant longtemps des pratiques assez inédites sur place.
Il y a Charles qui voulait dire, mais ce que tu viens de dire à la fin, ça me soulève pour moi presque la question, est-ce que tu n'aurais pas pu faire la thèse sans revenir à tout ce cadre architectural? Est-ce qu'il est vraiment tellement utile pour, ou plutôt dire plus ouvertement, jusqu'à quel degré il est utile? Peut-être il ne faut pas reprendre ça, mais juste ta dernière remarque me montre que peut-être on aurait pu faire une même thèse sur le même quartier avec peut-être des résultats un petit différents, des accentuations un peu autres, mais pour moi ça pose aussi la question jusqu'à quel degré est-ce qu'on a besoin de ce cadre matériel pour comprendre justement cette sorte ou cette qualité d'ambiance qui sont à l'intérêt de ton travail.
Merci. Non, moi, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit sur aller à la goutte d'or, c'est apprendre à être africain. Donc un peu comme si ce quartier, c'est un espace d'apprentissage.
C'est ce que disent les interlocuteurs.
Hein. Ouais. Et ben, nous, avec les termes qu'on utilise dans l'ANR, on dirait de la goutte d'or que c'est une scène culturelle. Et pourquoi? Parce que c'est un espace qu'on peut quasiment périmétrer, dans lequel se rend visible, par ses pratiques culturelles, par ses modes de vie, ses manières d'habiter l'espace, une communauté. Voilà. Et la question, c'est lesquelles et elles se rendent visibles. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles se rendent visibles et quels sont les supports de cette visibilité. Là, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'il y a des gens qui habitent, c'est sûr, mais il y a aussi, j'imagine, des commerces. Dans la goutte d'or, c'est l'image que j'en ai. Il y a des commerces. Il y a relativement, finalement, peu d'équipements culturels proprement dédiés à ces communautés. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on se balade dans la rue, on a des odeurs de restaurants, on a des gens qui rentrent et qui sortent dans ces commerces, qui offrent certains produits qu'on retrouve là et pas forcément ailleurs. On a des images, des couleurs qui sont autant en fait de signaux d'une vie culturelle et sociale qui devient remarquable et qui probablement, de la perception du public, notamment celui qui n'y réside pas, devient ambiance. Et en ce sens, il y a une sorte de... La ville devient saine parce que s'y mettent en scène un certain nombre de pratiques. Quoi. C'est une manière pour moi de comprendre, en tout cas, la question qui nous est posée, c'est le caractère ambiental des mondes sociaux. Et ça me faisait penser à l'idée quand même que l'un des fondateurs en géographie économique de l'approche des phénomènes d'agrégation d'acteurs dans l'espace, c'était quelqu'un qui s'appelait Alfred Marshall, un grand économiste qui a été un peu balayé par le Fordisme et surtout par John Maynard Keynes, mais il avait une intuition au début du XXe siècle en disant, dans le fond, pourquoi certaines entreprises petites et moyennes dans certains champs d'activité gagnent à s'agglomérer alors qu'elles sont a priori en situation de concurrence. C'est qu'en réalité, ce qui les réunissait, c'est-à-dire le partage des savoir-faire, le partage de la main-d'œuvre, était dans l'air, comme il disait. Et il utilisait une expression qui a été oubliée depuis, mais c'était atmosphère industrielle. Il y avait un savoir tacite qui se reproduisait dans les familles, qui se reproduisait socialement et qui en fait sédentarisait un marché de l'emploi qui était très spécifique et qui était une plus-value extraordinaire pour ces entreprises. Dit autrement, c'était une externalité positive qui spécifiait la manière de produire dans un espace. Quelque part, la goutte d'or relève des mêmes logiques. Et plein d'autres espaces, à mon avis, peuvent être observés de cette manière-là. Donc voilà, c'est un peu la manière dont moi, je trouve intéressant de s'en saisir.
Alors, ouais, là, moi, je ne serais pas du tout d'accord. Non, je ne serais pas d'accord. Alors, une scène, bien évidemment, la rue est une scène. Et cette dimension de la visibilité, elle est centrale. Mais après, dire que c'est une scène culturelle, à mon avis, ça nous empêche de penser. Parce que qu'est-ce qu'on dit quand on dit scène culturelle? Tu dis il y a une communauté. Ben non, il n'y a pas une communauté. Il y a combien de nationalités déjà? On dit centralité africaine, il y a plus de 33 nationalités d'origine. Il y a une multitude de tu vois, à quoi on réfère quand on parle de scène culturelle? Typiquement, là, on est dans des concepts qui nous empêchent de penser à la complexité du monde. Tu vois. Parlant en termes de scène, oui, de visibilité, oui, de performance, oui. Et après, il faut regarder de manière très, très concrète ce qui se construit dans cet espace public. Mais c'est là où ce terme de culture peut être, à mon avis, sur des réflexions comme ça, peut nous empêcher de penser, nous amène à aller beaucoup trop vite, quoi. Parce qu'on ferme, voilà, tac, on a dit, c'est une scène culturelle, Barbès, on ferme et on va voir ailleurs et on va chercher notre concept. Ben non, c'est là où justement il faut ouvrir, il faut poser des questions, il faut regarder dans le détail, il faut regarder ce qui se fait concrètement. Enfin voilà, le risque est d'aller trop vite avec ce concept de culture.
Peut-être aussi la question à la salle ou aux collègues qui sont derrière l'écran, s'il y a des envies de réagir ou des interventions.
J'ai deux questions en fait. Une question, je commence par la question à Ginen pour te poser la question. Vous avez parlé de trois temporalités, vous avez parlé du centre-ville là, dans les discussions, comment Solidaire, le projet Solidaire, il a gagné la compétition et voilà, on a adopté Solidaire. Aussi, les initiatives de requalification suite à l'explosion de Beyrouth et de reconstruction. Et aussi, vous avez parlé de la reconstruction du camp de Nahr el-Bayrid. On est bien d'accord que ces trois initiatives ne se ressemblent pas, parce qu'à Nahr el-Bayrid, c'est un peu à l'image du centre-ville où il y a eu une table rase et puis on a reconstruit, alors on a reconfectionné une ambiance, une nouvelle peut-être en quelque sorte. Et dans le cas de Malm Khay, c'est une reconstruction de l'existant, on réhabilite et on travaille avec l'ambiance existante. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton expérience dans les deux cas ? Parce que là, on est en train de confectionner une nouvelle. Et là, du coup, on travaille avec l'existant. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton expérience pour les deux ? Et j'ai une autre question concernant un peu. Vous avez beaucoup évoqué les termes WeMode, le partage. Mais est-ce qu'on n'est pas vraiment dans le No One's Mode plutôt que dans le WeMode ? Ça veut dire qu'on est dans le monde de personne. Parce qu'il n'y a pas vraiment une culture. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une culture hétéroclite ? Une culture qui est composée de plusieurs ? Ou une ambiance qui est composée de plusieurs ? Ou on rentre dans le fait que c'est une lutte ? Et enfin, il y a une qui va gagner ? C'est une question que je vous pose. Merci.
Non, ma réponse est simple en fait. C'est que même si un terrain est détruit à tabula rasa, même si un terrain, il y a des bâtiments existants, un terrain, c'est il y a une vie qui est là. Donc, ce n'est pas le bâtiment, c'est l'existence du bâtiment qui va dire qu'il y a une vie ici. Le camp palestinien, quand il était détruit à tabula rasa, et que quand on est... Mon expérience, bien sûr, dans le camp palestinien, c'est une expérience différente de mon expérience de mes enquêtes dans Amar Mkhail. Dans le camp palestinien, on est allé pour dire que même si ce camp est détruit à tabula rasa, une entreprise ne peut pas venir et de proposer un projet, de dire, bon, il y avait 1700 bâtiments détruits, donc on va reconstruire 1700 bâtiments, le même nombre, et on va demander aux réfugiés de retourner. Donc c'était là l'exercice très important qui se passait dans le camp Nahr el-Bayrid, et c'est pour ça, c'était Arachan, la même, comment dire, nominated comme projet, car il a proposé de donner une valeur à la vie des réfugiés qui vivaient dans ce camp.
Ils ne veulent plus revenir.
Non, ils sont revenus, mais je parlais, c'est ça. C'est ça, et c'est ça le rôle de l'ambiance qui devient difficile, que la reconstruction, c'était le problème avec la reconstruction, c'est pas la façon de penser la reconstruction. Donc il y avait des problèmes techniques concernant la reconstruction. C'était pas, on envisageait une reconstruction pour 5 années, donc c'était une reconstruction de 10 années. Donc dans 10 années, il y a des réfugiés qui sont morts. Les papas, les mamans qui vivaient, ce sont les enfants qui sont revenus. Donc c'est là, c'est pour ça que je suis allée au camp, après que j'ai travaillé comme architecte sur la reconstruction de ce camp, pour penser comment une ambiance s'est transformée, comment le camp était, comment ce projet est pensé et comment les réfugiés, ils vivent maintenant dans ce camp. En ajoutant aussi qu'on vit, et tu connais Georges bien le contexte qui est banni, c'est à ce moment-là, c'est la Nations Unies qui était la responsable pour la construction de projets, mais il y avait la crise en Syrie. Donc il y avait pas mal des réfugiés syriens qui sont venus au Liban se réfugier. Donc le financement pour le camp à Heilberg, c'est quelque chose de politique, ce n'était pas la priorité maintenant. Donc le financement, le funding, était pour l'état actuel, pour les réfugiés syriens. Donc c'est ça ce qui est important pour dire, et c'est ça où vient le rôle de l'ambiance, pour dire que ce n'est pas le processus de reconstruction, ce n'est pas quelque chose de défini. Donc il y a un éventail des projets de reconstruction au Liban, où dans chaque cas, la reconstruction n'était pas un temps défini. Et l'autre chose qui sera très importante, que c'est une vie, ce n'est pas un cadre bâti.
Moi, je ne crois pas que j'ai compris la question.
Ma question, c'est, vous parlez beaucoup du mode de partage des ambiances. Alors, il y a plusieurs ambiances qui s'installent dans un lieu et partagent le lieu ensemble. Alors, est-ce le fait qu'il n'y a aucune ambiance qui domine ? On parle d'absence de toute ambiance ? Et on parle plutôt d'une lutte plutôt que le mode de tout le monde. Alors c'est le,
au lieu de dire
we mode, on parle de nobody's mode en attendant qu'il soit le mode de quelqu'un.
Ouais, alors non, je me suis mal fait comprendre. Il y a, on pourrait dire, on peut parler d'une ambiance générique dans ce quartier, c'est-à-dire que de manière très concrète, si vous connaissez ce quartier, ça joue à une rue. L'impression que vous avez en tant que citadin, en tant que marcheur dans l'espace public, d'un côté du boulevard et de l'autre côté du boulevard, est absolument pas la même. Donc il y a une ambiance générale qu'on peut caractériser, qu'on peut analyser, etc., liée à l'occupation d'espaces publics, liée à la densité, liée au commerce informel, liée à la forte présence aussi de populations immigrées, à des modes d'occupation de l'espace bien particulier, etc. Il y a une ambiance. Et après, c'est un espace qui va se subdiviser en une multitude de micro-territoires. Et ça depuis les années 90, hein, il y a des observations très précises et minutieuses. Il y a là aussi des archives ethnographiques ou sociologiques sur ce quartier qui sont très intéressantes à constituer, et qui fait que si on rentre dans le quartier, il y a plein de micro-territoires qui vont être liés à des boutiques, qui vont être liés à des restaurants, qui vont être des lieux bien particuliers, à partir desquels il y a une ambiance spécifique aussi qui va se construire du fait de simplement la sociabilité des personnes qui occupent cet espace. Donc c'est pas du tout, il n'y a pas une absence d'espace, d'ambiance ou de we mode dans cet espace, bien au contraire. Je suis pas sûre qu'on soit bien compris.
Non.
Non, hein. Ouais. T'as compris, ouais.
Merci. En fait, je ne sais pas si je comprends un peu mieux, Georges, que toi, Virginie, mais en fait, je pense que la nuance, elle est dans le contexte. En fait, est-ce que on va du principe que c'est des ambiances politisées ou pas ?
C'était pas juste ma question, parce que là, si j'ai bien compris, on parle d'une ambiance et puis des sous-ambiances.
Il y a différentes communautés. Non, c'est pas grave. En fait, je pense que si tu essayes de comparer un peu ce qui se passe à la Goutte d'Or et par exemple au Liban avec différentes communautés qui se côtoient, il y a quelque chose quand même de très différent, parce qu'on est quand même dans un quartier où ce n'est pas relié à une question de politique. C'est-à-dire que même les communautés qui y vivent, d'ailleurs, je rebondis sur ce que disait Charles, ce n'est même pas, tu me reprends, Virginie, si je dis des bêtises, mais ce n'est pas aussi qu'une question de nationalité. C'est-à-dire que c'est plutôt par le son, c'est-à-dire la voix qu'on entend, qu'on reconnaît si en fait, il est de la même culture ou pas que nous, s'il parle le même dialecte ou pas, mais aussi par les vêtements aussi. Il y a quelque chose aussi qui se joue par le vêtement. Et ça ne se fait pas par nationalité. Donc, on ne peut pas venir juste mettre à plat et dire il y a 33 communautés parce qu'il y a 33 nationalités. Ça ne marche pas. On peut se dire qu'il y a 3 pays qui font une communauté. Pourquoi ? Parce qu'ils partagent, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, le même dialecte, ou parce qu'ils partagent la même culture, ils partagent la même religion. Voilà, c'est plutôt des choses comme ça. Et donc, d'une rue à une autre, tu vas peut-être avoir des ambiances différentes, mais c'est en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une multitude de micro-ambiances, avec chacune son identité, sa touche, qui finalement, d'un point de vue un peu plus extérieur, un peu plus général, forme une sorte d'ambiance pour ceux qui ne sont pas de l'intérieur, parce que de l'intérieur, tu vois bien les petites différences, mais quand tu es de l'extérieur, tu peux en voir une ambiance un peu qui fait paquet de micro-identités.
On parlait du partage, c'est plutôt l'ambiance de partage qui décline dans...
Enfin, l'ambiance, on peut pas la découper comme
ça. Oui, voilà, c'est pas... C'est vraiment les pratiques qui font que... Oui, c'est les pratiques qui font que tu peux avoir des sensations d'ambiance différentes aux odeurs, aux sons. Ça se joue vraiment aux sensorialités, moi, je dirais. Hein. D'une rue à une autre, c'est pas parce que t'es rue, je ne sais pas, et rue, je ne sais pas. C'est vraiment... il faut être sur place et vraiment s'imprégner de chacune de ces micro-ambiances pour lire les frontières, si tu veux découper les choses comme ça.
Oui, moi j'avais juste une question pour Charles. Est-ce que c'est possible de préciser un peu la manière dont vous vous y prenez pour... pour démontrer cette idée de transpiration, qu'est-ce que vous mobilisez comme document ? Vous travaillez sur des temporalités qui sont très différentes des autres temporalités qui ont été exposées à travers les différents travaux. Donc voilà, c'était simplement en savoir un peu plus sur l'arrière-cuisine. Pas forcément beaucoup, mais un tout petit peu, quoi.
C'est le nerf de la guerre. Alors nous, on travaille, on essaye de faire travailler des disciplines extrêmement diverses, hein, depuis l'économie, en passant par les spécialistes de l'ambiance, des urbanistes, des sociologues de la culture. Et on sait, pour l'instant, le mot qui semble le plus stabilisé, c'est l'idée de scène, qui nous invite à circonscrire un certain nombre d'objets qu'on essaye d'observer d'un même mouvement. Par exemple, l'idée de scène, c'est le moment où, dans l'espace public, transpirent les activités d'un groupe constitué autour d'une activité de production. Et là, pour pouvoir comprendre le groupe, ce monde social, on utilise toute une série de protocoles d'observation qui sont à cheval entre les analyses de réseau et les formes de coopération, un peu à la Howard Becker. Mais là, on reste sur ce monde qu'on identifie, dont la géométrie spatiale n'est pas spécialement liée toujours à un lieu. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est où ça se passe quand ça se rend visible. Et c'est là qu'interagissent, par exemple, les collègues sur la question des ambiances pour nous donner toute une série de protocoles pour nous expliquer comment s'opère la transpiration dans l'espace public des activités de son monde social. Et là, il y a toute une série de manières d'observer ce passage au visible, notamment dans le passage du public au privé. C'est ce que j'essayais d'expliquer entre l'espace public et l'espace du public. L'espace du public d'une activité artistique peut parfois déborder sur l'espace public, mais pas toujours. Quand on rentre dans une galerie d'art, par exemple, il y a une exposition, surtout si on est en hiver, on reste dans la galerie d'art. Par contre, si il y a après ça, je ne sais pas, moi, on offre à boire un coup, ou bien il y a des choses qui sont outdoor, là, l'espace du public captif de la monstration de l'œuvre va déborder sur l'espace public. Là où ça devient intéressant, c'est quand ces activités-là se concentrent dans l'espace. Et là, on fait l'hypothèse que ça génère des ambiances dites remarquables, en ce sens où ces activités, elles sont extatiques, elles débordent Extatique et débordement, c'est pareil, c'est une excellente question à laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir tout à fait te répondre. Il y a de l'ordre de la similitude, et en même temps, Je pense que le mot extatisme va plus loin que le mot débordement. Oui, mais il y a l'extase au moment où la perception sensible qu'on fait collectivement du lieu fait de cette activité une activité extatique. Mais ce n'est pas forcément une activité, ça peut être un lieu, ça peut être du mobilier urbain, ça peut être toutes les brèches dans la routine un peu perceptive, en fait, qui se concentrant dans l'espace-temps, rend ce lieu de manière remarquable, atmosphériquement en tout cas parlant, plus remarquable que d'autres. Et ça, c'est pour le protocole du côté de la mesure, enfin, mesure, c'est pas un mot, de la prise en compte de la mise, des régimes de mise en visibilité d'une activité. Donc, tu as les réseaux, tu as la question de l'extatisme et du caractère remarquable des activités sociales qui se déploient dans un espace. Mais on va aussi être extrêmement attentif à la manière dont ces mondes sociaux se racontent et organisent des actions collectives. Par exemple, une compagnie d'artistes qui, à un moment, pour pouvoir rendre visible son travail, court-circuite le système classique du musée, de la galerie, etc., et occupe l'espace public le temps d'une kermesse, le temps d'un événement, ce qu'on appelait les artist-run galleries dans le Londres des années 90, c'est-à-dire, en gros, le lieu de l'atelier devient aussi le lieu de l'exposition. Et souvent, d'ailleurs, ces stratégies d'action collective gagnent à aller chercher dans l'espace public du public, en réalité. C'est ce que révélaient les thèses intéressantes sur Belleville, par exemple. Il y a une très forte concentration d'activités artistiques à Belleville, notamment d'ateliers, mais tant qu'ils n'interagissent pas avec l'espace public, ils ne se rendent pas visibles, et notamment ne rendent pas visible le travail de l'art. Par contre, à partir du moment que collectivement ils ont commencé à s'organiser pour pouvoir montrer le travail de l'art dans l'espace public, l'identification aux artistes parmi les autres communautés de Belleville a été plus évidente. Donc c'est quand même les ressorts d'une action collective où on cherche à montrer une partie de son activité. Et puis il y a aussi, en dernier lieu, et je finis là, je suis trop long, l'analyse de la forme urbaine. C'est-à-dire pourquoi ça se passe là et pas ailleurs. Est-ce que l'espace, dans sa matérialité, a des propriétés qui permettent, plus que d'autres, que ces réseaux se constituent, qu'ils s'y rendent visibles, et qu'ils aient des actions collectives en vue de rendre visible leur activité. Voilà. Alors tout ça, c'est très ambitieux, et ce n'est pas facile à faire. Et on voit bien, quand tu dis scène culturelle, ben forcément, de l'endroit où on parle, ce n'est pas recevable. C'est tout à fait normal. Donc c'est une proposition pour l'instant, sémantiquement, qui n'est pas totalement stabilisée, mais qui cherche à renouveler un peu l'analyse des formes d'agrégation dans l'espace d'activité. Que nous propose la géographie économique.
Je pense que nous avons encore le temps pour une question. Donc c'est peut-être aussi la question, ou deux questions, une, éventuellement s'il y a des personnes sur l'écran, derrière l'écran, qui ont envie.
Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, bon, en tout cas, pour l'exemple le plus frappant peut-être, mais on le retrouve aussi dans la présentation sur... comment ça s'appelle ? Jean Massé, je me rappelle plus, quartier Jean Massé de Riba. Et en fait, mais la goutte d'or, c'est un exemple plus frappant en fait d'une espèce d'alchimie du lieu, en fait, où en fait il y a une ambiance qui se dégage et qui fait que le lieu est particulièrement hospitalier, on va dire, pour certaines personnes. Et ce qui enfin, la question que je me pose, en fait, bon, il y a toute cette question des ambiances, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de lieux dans Paris ou dans d'autres endroits, en fait, qui présentent en fait des caractéristiques on peut dire ambiental, je ne sais pas comment on dit, très similaires en fait, mais qui ne sont pas pour autant connus, comme tu disais, au Sénégal ou ailleurs. Et au final, qu'est-ce qui fait, est-ce que l'ambiance explique tout, on va dire? Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, certains lieux acquièrent, on pourrait dire, comme dit Lynch, une forme d'imagibilité, non, une image particulière ou une espèce d'imaginaire, en fait, qui fait que ça qui transcende largement ces frontières? J'imagine qu'il y a plein de quartiers qui présentent des caractéristiques multiethniques, des commerces un peu de tout genre, très similaires à celui de la goutte d'or, mais c'est pas la goutte d'or. Voilà. C'est un peu quels seraient les autres facteurs explicatifs ou qui font qu'une ambiance, on va dire, se cristallise au bout d'un moment un type d'ambiance cristallise dans un imaginaire collectif. Voilà.
Vaste question. Je sais pas. Je pense qu'il y a l'histoire, d'abord la durée. C'est un quartier qui a une longue histoire, hein, et qui existe effectivement en dehors des frontières de la nation. Donc ça, c'est quand même un facteur très très important. Mais je suis d'accord avec vous. Il y a, par exemple, pour m'être baladée il y a peu de temps avec Michel Kokoreff à Saint-Denis. Saint-Denis est une ville fascinante qui est occupée. Il y a tout un tas de quartiers qui sont occupés par le commerce informel. On retrouve des ambiances. Enfin, il ne m'a pas emmené non plus par hasard dans certaines rues, mais on retrouve vraiment des ambiances qui sont très très similaires à celles qu'on retrouve à Château-Rouge. Et pour autant, c'est des espaces qui ne font pas partie de cette géographie imaginaire mondiale. Et qui ne sont pas des hauts lieux, disons, des histoires migratoires ou des mondes en archipel de l'immigration. Donc je pense qu'il y a certainement une réponse par l'histoire, le temps long, et puis par la question de l'imaginaire. Alors d'autant, ce qui est intéressant aussi dans ce quartier, juste... Non, ça va ? Je croyais que tu voulais m'arrêter. C'est que c'est très largement des ambiances qui se construisent aussi contre les politiques publiques. Une politique publique qui, c'est un quartier qui est un terrain de jeu pour les politiques publiques où se sont succédés depuis les années 80 des grands projets de rénovation, de destruction du quartier, où il y a eu des mobilisations d'habitants pour sauver certaines parties du quartier, pour transformer en habitat social des logements qui ont été reconstruits, etc. etc. Stéphane Lecourant, on avait observé la mise en place de la zone de sécurité prioritaire aussi dans ce quartier, qui paraissait hors norme, quoi. À la fois dans le discours sur justement cette dérégulation de l'espace public et tout ce que ça comportait, dérégulation de l'espace public du fait de l'excès, du fait de l'encombrement, du fait de la densité, du fait de la transformation des trottoirs en espace d'activité. Les moyens qui ont été mis pour lisser cet espace, la chasse qui a été faite au commerce dit ethnique dans les réunions d'habitants suivies de la ZSP, on ne dit pas ça dans les documents officiels, hein, mais il y a vraiment eu, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais un nombre de commerces qui dans la période ont été fermés pour des enquêtes d'hygiène, des enquêtes pour irrégularité au niveau économique. Et ils ont vraiment fait la guerre à ces commerces-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est le quartier qui se déplace sensiblement. C'est-à-dire, il y a des commerces qui ont fermé temporairement, mais il y a le cousin ou le beau-frère qui va reprendre la boutique, donc avec un autre nom, c'est pas le même nom, puis ça va réouvrir deux rues plus loin, et puis donc il y a un petit bout de quartier qui a changé, parce qu'effectivement là, le paquet a été mis pour qu'ils mettent la clé sous la porte, mais il y a une extension du quartier plus au nord, donc il y a malgré ces politiques-là, une vie publique qui se reproduit. Enfin, la question de l'esprit du lieu dans ce quartier, elle m'est souvent venue. Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'un lieu ? Et qu'est-ce qui fait qu'on a une vie publique qui se reproduit malgré un acharnement vraiment des politiques publiques qui tentent de réguler, lisser, normaliser cet espace depuis les années 80 ?
Bon, je ne vois pas des mains levées sur l'écran, donc peut-être on peut passer la parole à Laure et à Rachel, ou à Rachel et Laure, pour le retour à chaud sur cette discussion et sur les interventions de cette deuxième table ronde.